Bonjour à ceux, celles qu'on n'a pas encore vues. C'est une joie avec Anne-Laure pour nous d'être avec vous ce matin. Et je redonnerai des nouvelles après, mais je voulais déjà vous dire merci pour vos prières qui ont certainement trouvé une réponse auprès de Dieu. On a été au bénéfice aussi de votre ministère, de vos prières. Et je peux vous dire que je crois vraiment que Dieu a répondu à vos prières et nous a porté dans ce qu'on a vécu. Et voilà, je vous en dirai plus après. Dans notre monde brisé, la vie, notre vie, ne ressemble de loin pas à un long fleuve tranquille. Difficile d'échapper à cette réalité. Rien que dans notre quotidien, il y a plein d'embûches au travail, sur la route, à l'école. Stress, tension, conflit, ça ne manque pas. Et puis, il y a le corps qui vieillit, le corps qui fait mal, la fatigue qui s'installe, la fatigue qui persiste, le sentiment d'inaptitude qui arrive, l'isolement, la fuite, le contrôle. Et puis, comme ce n'était pas assez, il y a aussi des drames qui nous tombent dessus. Nous n'avons rien demandé, mais ils sont là. La douleur se fait ressentir, parfois supportable, d'autres fois cruelle, douloureuse. Certaines souffrances nous mettent à nu, nous sommes lessivés, dépassés. L'angoisse nous saisit. Et si nous n'avons pas encore goûté à tout ça, alors vivons encore un peu de temps. Et certaines tragédies ne manqueront pas de nous surprendre. Que faire quand l'épreuve dure encore et encore? Que faire quand Dieu nous paraît absent? Que faire quand nous ne voyons pas ou plus le bout du tunnel? Et je vous propose de répondre à ces questions au travers d'une prière du roi David au psaume 13. Si vous voulez prendre avec moi le psaume 13, je crois que dans vos Bibles, enfin, c'est pas que je crois, je suis sûr, ça se trouve à la page 635. Psaume 13, page 635. Au chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu! Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu !» et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous propose de voir cette prière en trois étapes. Alors que l'épreuve persiste, Dieu nous invite, et on va certainement afficher le PowerPoint s'il s'affiche. L'autre slide. Dieu nous invite à prier franchement. Pourquoi? À crier vraiment au secours et à espérer profondément. À prier franchement, pourquoi? Le verset 2, je relis. « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Voilà un cri du cœur de la part de David. Le secours de Dieu n'arrive toujours pas. Et l'épreuve ne cesse de durer encore et encore. Alors, David ne peut pas échapper à ce sentiment de se sentir oublié, abandonné de Dieu. Dans sa perspective, il ne perçoit toujours pas l'action de Dieu et cette inaction apparente lui renvoie l'impression que Dieu est absent. L'épreuve dure encore et encore. Mais où est Dieu dans mon épreuve? Où est-il? Il y a peu encore, je lisais que le sentiment d'être abandonné par Dieu est le pire désespoir que nous pouvons connaître. Et David ne pouvait pas ignorer le ressenti qui était le sien. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Il ne met pas de masque. Il n'a que faire des faux semblants, c'est direct, c'est osé, et peut-être que nous serions tentés de corriger ce genre de paroles, de les atténuer. Mais non, David, Dieu ne t'a pas abandonné, ce n'est qu'un sentiment, tu n'as qu'à faire comme moi. Dans l'épreuve, je me dis que Dieu sait, et ça me suffit. Mais nous aurions tort de le faire. Car cette expression « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» c'est l'expression honnête d'un cœur profondément attaché à Dieu. C'est la foi intègre d'une personne qui passe par la tourmente. Et vous savez, à ce titre, je me méfie de certaines de mes belles prières du dimanche matin. Il y a un certain décorum dans certaines de mes prières, mais qui ne reflète pas ce qu'il y a dans mon cœur. Dans son livre sur la souffrance, Donald Carson dit « Dieu ne nous reproche pas d'exprimer honnêtement notre désarroi. Il est de loin préférable de reconnaître notre désespoir avec franchise et d'avouer nos interrogations plutôt que de les étouffer et d'afficher une piété hypocrite. » Oui, à un moment donné, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de belles paroles de consécration, mais que nous soyons honnêtes, vrais, et j'oserais dire, même si nous nous trompons dans ce que nous disons ou pensons, je suis convaincu que ce qui vient souvent étouffer notre foi, c'est le fait que nous ne disons pas vraiment à Dieu ce que nous avons sur le cœur, parce que ce n'est pas beau à dire. Et pourtant, il y a tellement plus de place dans le cœur de Dieu pour entendre ce qu'il y a au fond de notre cœur, même si ce n'est pas beau à dire. Et il me semble que parfois, Dieu permet que nous soyons poussés à bout afin que nous puissions enfin cracher le morceau. Et c'est là qu'un travail de fond peut avoir lieu. À ce titre, j'aime me rappeler que nous n'avons pas la fin de l'histoire ni de Jonas, ni du frère aîné en Luc 15, si vous vous en souvenez. Jonas, qui est envoyé par Dieu pour prêcher le jugement à Ninive. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Tarsis, dans l'exact opposé. Et voilà, il s'ensuit plusieurs rebondissements, mais pour finir, il se retrouve quand même à Ninive pour annoncer le jugement. Et quelle est la réaction des Ninivites? En fait, ils se repentent de leurs mauvaises actions, ils reviennent à Dieu et Dieu renonce à faire tomber son jugement. Et quelle est la réaction de Jonas? Jonas n'est pas très content. Il dit à Dieu, je savais que tu es un Dieu miséricordieux, qui fait grâce, qui pardonne, je le savais. Et je ne sais pas trop quel était le problème de Jonas, et il a tort de penser ce qu'il pense, mais au moins il le dit. Et c'est là qu'il y a un dialogue qui s'engage avec Dieu et qui permet peut-être justement d'aller plus loin. Oui. Je continue au verset 2. David dit « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ou ton visage ?» La face de Dieu, c'est sa présence favorable envers nous. Et David a cette impression troublante que Dieu lui aurait tourné le dos. Il ne perçoit plus son sourire. Dans le fond, David sait que Dieu est quand même là, mais son épreuve n'arrête pas de lui dire le contraire, d'autant plus qu'elle ne cesse de durer. C'est ce que souligne le verset 3, quand David dit « Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée ?» ou suivant les traductions, « chaque jour ». Il faut certainement prendre en compte ces deux notions de temps, à longueur de journée et chaque jour. En fin de compte, son épreuve est omniprésente, il ne peut pas y échapper, il ne peut pas l'ignorer un instant, elle remplit son quotidien, elle lui saute aux yeux. Et David ne voit pas ou plus le bout du tunnel. Et c'est là que l'épreuve devient insupportable. Je me rappelle avec Léon, Dès son quatrième mois de vie, les médecins nous ont annoncé qu'il devrait rentrer en soins palliatifs. Quand une personne rentre en soins palliatifs, cela veut dire qu'on va viser le confort de vie de la personne, parce que, en fait, derrière, on n'a plus forcément d'espoir à vue humaine de trouver une solution. On n'a plus d'espoir que la maladie puisse se résorber. Alors, quand une personne rentre en soins palliatifs, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément partir décédée du jour au lendemain. Il y a des personnes qui passent beaucoup d'années en soins palliatifs. Mais quand même, on peut dire que la perspective de la mort se rapproche un peu plus quand on vous annonce ça. Et on s'attend souvent à ce que ce soit plutôt les personnes d'un âge assez avancé qui se retrouvent en soins palliatifs, pas un petit bébé de 4 mois. Et là, en tant que parent, on rentre dans une tension. Parce qu'on essaie de se préparer au jour de son départ. Mais en fait, c'est impossible d'être complètement prêt au jour du départ de n'importe qui, d'ailleurs. Et en même temps, on espère peut-être qu'il y aura du mieux. Et on ne sait pas quand la mort va surgir, c'est entre les mains de Dieu. Et cette tension est difficile à vivre. Et parfois, il y a un peu de mieux, et quelques semaines plus tard, il y a encore une dégradation. Et on est tellement lessivé par l'accompagnement de notre enfant, de le voir souffrir, que franchement, on fonctionnait un jour à la fois, pas beaucoup plus. Et de temps en temps, on levait la tête et on voyait un peu plus loin. Ah oui, peut-être qu'on pourrait faire ça, ça, ça avec lui. Des fois, on se prenait à rêver parce qu'il allait un peu mieux. Mais le lendemain, c'était compliqué. Et quand on ne voit plus le bout du tunnel, c'est là que l'épreuve devient difficile. Et on peut penser aux personnes qui souffrent dans leur propre chair d'une manière aiguë. Je pense par exemple à Job. Andrew Fuller dit « Lorsque Job fut affligé par plusieurs mauvaises nouvelles successives, il les supporta avec courage. Mais lorsqu'il lui fut impossible de voir la fin de ses souffrances, il s'écroula sous leur poids. » Alors que faire quand nous ne voyons plus ou pas le bout du tunnel dans l'épreuve? Et je pense que en fait, le psaume que nous lisons peut être une partie de la réponse. Les psaumes nous permettent de mettre des mots sur nos angoisses. Et quand on est lessivé et fatigué, je peux vous dire, peut-être ça vous est certainement arrivé, mais des fois, on n'a même plus la force de prier. Et là, le psaume est vraiment bienvenu. On peut ouvrir la Bible et juste lire le psaume et s'approprier ce que le psalmiste dit. Et j'aime me rappeler que si aujourd'hui il y a des psaumes qui ne me parlent pas beaucoup, c'est certainement parce que je n'ai pas encore vécu une situation plus ou moins similaire au psalmiste. Mais le jour où je vivrai une situation plus ou moins similaire, son psaume me sera utile. Il permettra de poser des mots sur mes angoisses et ainsi de suite. Aussi sur des joies, il y a plein de psaumes joyeux. Au verset 3, David dévoile ce qui est la cause de son épreuve. Il dit « Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?» ou « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Nous ne connaissons pas l'identité de cet ennemi. Peut-être était-ce son fils Absalom, peut-être pas. Peut-être était-ce Saül, peut-être pas. En tout cas, quelqu'un en voulait à sa vie. Voilà qui a de quoi créer quelques tensions en nous. Parfois, nous relativisons nos problèmes en disant « Personne ne cherche à nous tuer, donc ce n'est pas si grave que ça. » Mais David, lui, vivait dans une tension constante et accablante. Avec ce questionnement profond, qu'est-ce qui va me tomber dessus, là, dans l'heure qui vient? Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Comment se fait-il qu'avec Dieu, David puisse être si direct, si poignant? S'il crie 4 fois, jusqu'à quand? C'est qu'il sait qu'en définitive, Dieu est le seul à avoir entre ses mains la fin de son épreuve. N'est-ce pas là le reflet d'une foi qui croit profondément que Dieu est bon et qu'il a le contrôle sur tout ce qui se passe? Et c'est à cause de cela que David est si vif dans son interpellation. C'est à cause de cela qu'il ne peut pas rester silencieux. C'est une question de vision de Dieu au milieu de la souffrance. Et moi, quelle est ma vision de Dieu alors que je passe par l'épreuve? Où est-ce que je regarde? Où est-ce que je trouve la force pour parler à mon Dieu? Je reviendrai sur ces questions. J'en arrive à mon deuxième point. Quand l'épreuve persiste, Dieu nous invite à prier franchement et à crier vraiment. Verset 4, « Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi !»« Viens réparer mes forces » ou suivant les traductions, « Donne la lumière à mes yeux. » Ce n'est pas que David commande Dieu, mais nous avons là l'aveu poignant d'une personne qui est juste à bout, qui n'en peut plus, et qui reconnaît qu'il n'y a pas de solution en soi-même. Et vous savez, en tout cas pour moi, ce n'est pas si évident que ça de crier vraiment à Dieu. Parfois, je demande à Dieu de m'aider, mais une fois que j'ai fini ma prière, je compte, dans le fond, plutôt sur moi-même. Je me dis, voilà, j'ai prié, j'ai passé l'étape que je devais faire. Mais en fin de compte, je continue de rechercher encore des solutions en soi-même, en moi-même. Et il y a quelque chose de très humiliant quand vraiment on se retrouve à bout et en fin de compte, on a plus que la prière. On n'a plus que Dieu pour venir en aide. Et plusieurs fois, avec Léon, on a crié avec Anne-Laure parce qu'on était complètement à bout et on a expérimenté ce secours de Dieu. Et la vérité, c'est qu'en fait, même quand ça va bien, on est quand même beaucoup plus faible et dépendant de Dieu qu'on pourrait le penser. Oui, quand l'épreuve persiste, Dieu nous invite à prier vraiment au secours. Et cet appel au secours de David est dans le fond l'expression même de son humilité. Regardons de plus près sa demande. Au verset 4, il dit « Réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Demander à Dieu d'éclairer nos yeux, c'est lui demander qu'il nous donne de voir la situation comme lui la voit. Qu'il éclaircisse notre vision pour que nous puissions avoir sa vision. Sa vision sur la situation, sa vision sur nous-mêmes et sur lui. En quelque sorte, David demande à Dieu que ses pensées soient nourries par la vérité divine. La lumière a souvent un lien étroit avec la vérité. Et il y a là un enjeu important, car lorsque nous passons par une épreuve douloureuse et qui dure, notre vision de Dieu est d'autant plus déséquilibrée. Déjà, quand en normal, notre vision de Dieu est bien imparfaite. Alors quand la douleur crie et que la confusion nous saisit, c'est là que des mensonges s'invitent dans notre cœur. Ne voyons-nous pas Dieu sous des traits distants, froids, durs, quand l'épreuve persiste? Ne sommes-nous pas tentés de remettre en question sa bonté, ou alors sa toute-puissance, ou alors sa sagesse? Ou alors de faire un choix entre ces trois? Il est peut-être bon, mais alors pas tout-puissant, il est peut-être tout-puissant, mais alors pas vraiment bon. Où regarder pour avoir une juste vision de Dieu? Où regarder pour trouver la force de crier vraiment à lui? Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le sommeil de la mort peut être compris de façon littérale, comme faisant référence à la mort physique, ou de façon figurative, comme faisant référence à une léthargie morale et spirituelle, une sorte d'immobilisme profond parce que le désespoir a pris le dessus. Et si David espère la fin de l'épreuve, il a surtout le souci que Dieu lui donne la foi, les forces nécessaires pour traverser cette épreuve, la traverser avec Dieu et selon Dieu. Et je me dis, c'est tellement important de prier dans ce sens alors que nous traversons nous-mêmes l'épreuve. Seigneur, donne-moi la foi nécessaire pour regarder, non à moi-même, mais à toi. La foi nécessaire pour me concentrer, non sur moi, mais sur toi. Mais où regarder pour trouver les forces afin de prier vraiment notre Dieu? Où regarder? Et j'en arrive à mon dernier point. Je fais aussi ma conclusion. Quand l'épreuve persiste, Dieu nous invite à prier franchement pourquoi, à crier vraiment et à espérer profondément en ce qu'il est fait et fera. Verset 6. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Le contraste est frappant entre le début et la fin de ce psaume. Au début, c'est la consternation et à la fin, c'est la louange. Mais qu'est-il arrivé à David ? Nous ne savons pas combien de temps il s'est écoulé entre le début et la fin de cette prière. J'imagine plus de temps qu'il n'en faut que pour lire ces 6 versets. Mais une chose est sûre, cette allégresse de cœur de David témoigne qu'il s'est confié en l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme. Il sera difficile pour nous de goûter à cette allégresse si nous demeurons passifs dans la détresse ou repliés sur nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais parfois, les forces peuvent manquer, la volonté aussi. Et prier franchement nous paraîtra si difficile. Alors où regarder pour trouver les forces de nous confier vraiment en notre Dieu ? 2 heures avant de mourir, Léon a fait un malaise aigu. Le personnel soignant est intervenu d'urgence pour tenter de stabiliser son état. Mais malgré leur intervention, Léon est resté en grande difficulté respiratoire. Il luttait, chaque inspiration était ardue. Ses pulsations cardiaques atteignaient 230 battements par minute. Il pouvait encore ressentir notre présence, mais les échanges de regards étaient fugaces. Ses yeux vrillaient, la dernière ligne droite s'annonçait, les minutes étaient comptées. Et même si la douleur a bien été gérée par l'équipe médicale, nous ne pouvions que constater un certain inconfort chez notre enfant. Oui, pour lui, le bout de course a été pénible. Et ces souvenirs douloureux nous reviennent comme des flashs qui cisaillent notre cœur. Avec Anne-Laure, nous serions tentés d'enfuir ces pensées, de ne pas en parler ni à Dieu ni aux autres, d'idéaliser ces moments, de minimiser le traumatisme qui est le nôtre. D'ailleurs, rien que d'y mettre des mots, le chagrin nous envahit. Et c'est là que nous regardons à Jésus, à ses larmes, à ses cris, à son cœur, devant la tombe de son ami Lazare, au jardin de Gethsémané, sur la croix. Ces scènes rejaillissent dans notre esprit et nous trouvons en Christ la force d'espérer, la foi de nous confier en notre Dieu et le courage de parler à notre âme. C'est un combat, mais Jésus nous montre la voie. Il balaie nos hypocrisies et nous invite à pleurer franchement et à espérer profondément. Il permet que nos pleurs ne se transforment pas en colère destructrice. Parce que la mort et la souffrance n'est pas la fin de l'histoire grâce à Jésus. Et il nous invite à faire les deux, à pleurer franchement et à espérer profondément. Les deux sont importants. Où est-ce que je regarde pour trouver la force de me confier en Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme ? Bien sûr, je regarde à Jésus, à sa mort sur la croix, premièrement, à cause de mon péché. Si David a prié pour être délivré de ses ennemis, Jésus, lui, a prié pour ses ennemis. Plus encore, il est mort pour les ennemis que nous sommes. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul dira « Alors que nous étions ses ennemis, les ennemis de Dieu à cause de notre péché, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Romains 5, verset 10. Un jour que je me baladais dans les bois en priant Dieu et en lui demandant « Mais Seigneur, pourquoi Léon doit souffrir autant ? Pourquoi ?» Je n'ai pas eu de réponse et ça demeure encore un mystère pour moi aujourd'hui. Mais un verset est revenu dans mon cœur avec force. Un verset tout simple, mais d'une grande profondeur. Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça n'a pas répondu à mon questionnement, mais ça m'a rappelé que Dieu lui-même s'est fait homme, qu'il s'est abaissé, qu'il s'est humilié, qu'il s'est donné entièrement à nous, à tous ceux qui croient en Jésus, alors que nous méritons juste le contraire. À cause de la dureté de mon cœur, de la folie de mon cœur, mais à la croix, Jésus a pris sur lui cette condamnation et ça me fait du bien de me rappeler, de me prêcher l'évangile à moi-même. Si la souffrance et la mort sont un réel problème, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est le péché en général. Et Jésus est venu pour ça. Et souvent à l'hôpital, je me suis dit, punaise, le péché pèse lourd, lourd de conséquences. Mais Jésus est venu solutionner cela, ça. Et pour trouver la force de me confier en Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, je regarde aussi à la résurrection de Jésus. Sa résurrection me dit que ni la mort ni le péché ne sont la fin de l'histoire. Sa résurrection me montre, me garantit que le monde de demain va arriver. Un monde dans lequel il y a justement plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. Et ça, c'est juste extraordinaire, les amis. Une question qui revient toujours avec les parents avec qui on était, c'est « Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Et dans notre monde, il y a différentes visions qui s'entrechoquent par rapport à cette question. Dans la vision matérialiste, après la mort, il n'y a plus rien. Et les gens qui ne sont pas croyants, intuitivement, savent que cette vision-là n'est pas du tout satisfaisante. Ça ne leur convient pas. Parce que ça nous montre que l'être humain a été fait pour être en communion avec Dieu et que la mort est un intrus. Et dans d'autres visions du monde, il y a peut-être des réponses, mais qui ne sont pas autant satisfaisantes que la vision biblique, que ce que Jésus nous montre. Et la résurrection est juste tellement importante. Je trouve, on fête Noël des fois pendant plusieurs semaines, et on accorde juste un week-end à Pâques. Mais je trouve qu'on devrait accorder plusieurs semaines à Pâques et ouvrir le champagne. Et tellement, c'est puissant ce qui s'est passé. Et avec Anne-Laure, c'est ce qui nous donne les forces d'avancer. Jésus est vivant. Jésus revient. Et on sait que Léon est aussi auprès de lui. Et un jour, il pourra dire au revoir à son siège médicalisé et dire toi à la benne et avoir un corps nouveau et courir auprès de son Créateur. N'est-ce pas extraordinaire? Oui. Quand l'épreuve persiste, prions franchement, prions vraiment à Dieu. Espérons profondément en ayant les regards sur Jésus. Toujours plus et toujours mieux. Dieu vous bénisse. Je vais prier. Merci parce que tu es vivant. Tu es mort pour nos péchés et tu es ressuscité 3 jours plus tard. Merci parce que tu règnes, tu es à la droite de Dieu et tu vas revenir. Et merci parce que tu sais ce que c'est, toi, la pire des souffrances. Et tu es là et tu nous soutiens. Et je veux te remercier parce que, oui, tu es un secours certain pour quiconque se tourne vers toi et crie à toi. Merci pour toute ta grâce envers nous. Seigneur, que nous puissions toujours mieux et toujours plus regarder à toi. Amen.